Bonjour, chers auditeurs. Eh bien, aujourd'hui, qui est une journée particulière, puisque c'est la journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage, nous allons aussi vous parler de l'Afrique. Cette Afrique qui se pose beaucoup de problèmes en ce moment, après 50 ans d'indépendance. Alors, les associations de la Maison des Tiers-Mondes et de la Solidarité Internationale, qui sont réunies boulevard Louis-Blanc, à l'espace Martin Luther King, ont décidé de faire un colloque pour approfondir cette question. Quel bilan et quel devenir pour les pays d'Afrique subsaharienne francophone? Et ça se passera le vendredi 21 et le samedi 22 mai. Et j'ai avec moi aujourd'hui, pour vous en parler, Paul Bon-Condé, qui est président du GREDA, le groupe de recherche et d'expertise sur la valorisation des savoir-faire en Afrique, et qui a fait partie du comité de pilotage de ce colloque. Alors, bonjour Paul.
Bonjour.
Pouvez-vous nous dire un peu votre parcours et pourquoi vous vous êtes engagé justement à préparer ce colloque?
Eh bien, moi je suis chercheur, je suis économiste de formation. Et j'ai été au CIRAD et là, à l'heure actuelle, j'anime une ONG qu'on appelle GREDA. Et le GREDA, c'est une association qui œuvre au développement des savoir-faire, à la valorisation des savoir-faire en Afrique. Il est constitué de différents membres africains et puis africanistes, la plupart étant des économistes, des géographes, il y a même des pharmaciens. Voilà.
Ah oui, c'est tout à fait ouvert.
C'est tout à fait ouvert. C'est, le champ est multidisciplinaire, quant au fond.
Quand vous parlez de pharmacien et que je me réfère au savoir-faire, je pense tout de suite à la médecine, tirée des plantes.
Tout à fait, à la médecine traditionnelle. Vous savez que l'Afrique a une pharmacopée tout à fait impressionnante, très importante. Il est important que la recherche africaine s'y intéresse et qu'on essaye de découvrir cette diversité et qui pourrait être à la base du traitement des maladies des fois bénignes et même des maladies relativement graves en Afrique aujourd'hui.
Oui, donc c'est au fond les secrets de la nature que traditionnellement on a trouvé, on a entretenu, on a développé. Et tout ce savoir-faire, justement, ce savoir, peut être mis à la disposition de la communauté humaine.
Tout à fait. Ça peut être mis au service de la communauté humaine, à condition qu'on y encadre les préoccupations éthiques. Parce que dans les sociétés traditionnelles africaines, vous le savez, cette médecine était gratuite, était relativement gratuite. Et il y a certains organismes scientifiques qui ont tendance à capturer ces savoir-faire.
Avec les brevets.
Avec les brevets, à les breveter et faire comme, à l'arrivée comme si elles étaient les propriétaires de ces savoir-faire.
Oui, mais j'ai vu dernièrement d'ailleurs qu'une communauté africaine, je ne me rappelle plus exactement où elle est située, avait gagné un procès concernant un brevet. Alors, il faut toujours penser que c'est possible en droit, qu'il y a un droit qui existe.
Tout à fait. C'est le droit...
L'antériorité.
Le droit à la propriété collective, c'est le droit vers lequel on doit tendre, surtout dans les communautés humaines, les communautés africaines qui ont conservé un certain nombre de savoirs qui leur sont propres, mais qui appartiennent aussi au patrimoine de l'humanité.
Alors vous êtes originaire de quelle région?
Je suis originaire du Cameroun, plus exactement entre Douala Yaoundé et Iséka. C'est le sud du Cameroun, si vous connaissez un peu.
Oui.
C'est toute l'Afrique équatoriale. Voilà, c'est un peu...
Dont il sera bientôt, bien sûr, question dans ce colloque.
Exactement.
Alors, vous vous présentez en fait comme étant économiste, tout à fait intéressé par les savoirs de différentes natures.
Tout à fait.
Et vous allez vous occuper d'un atelier qui est un atelier politique.
Tout à fait.
Mais pour vous, le colloque, au fond, vers quoi doit-il tendre?
Voilà, nous avons connu au cours des 50 dernières années un certain nombre de problèmes après avoir élaboré au départ, au début des années 60, des politiques dites en général, des politiques autocentrées, des politiques relativement étatiques. Il reste qu'au départ, on a obtenu des résultats en termes d'autosuffisance alimentaire dans certains pays.
Oui,
dans d'autres, il y a eu des blocages en termes, par exemple, de sécheresse, y compris même en termes de système politique.
Et il y avait eu quand même des progrès faits, mm-hmm. à la fois sur l'alimentation, comme vous venez de le dire, mm-hmm. mais aussi sur la santé, sur l'éducation.
Et sur la formation des cadres du pays, dans le service public en particulier.
Voilà, et c'est à partir des années 80 que ça a commencé à se gâter.
Il y a tout ce gâteau au début des années 80. Et déjà, on amorce déjà les politiques, les politiques du FMI. Le FMI impose aux pays d'Afrique un certain nombre de règles au niveau de l'économie. La plupart du temps, on demande de dégraisser le secteur public. C'est-à-dire qu'il faut faire partir la plupart des fonctionnaires qui disposent d'une certaine expérience. Et ensuite, le FMI n'a pas favorisé des politiques économiques autonomes. Bien au contraire, ça a favorisé, ça a entraîné l'endettement des États africains.
Et la venue des multinationales.
Et la venue des multinationales et surtout la privatisation de certaines sociétés qui étaient des sociétés parapubliques, la plupart étant même publiques.
On peut citer, par exemple, le cas des chemins de fer au Burkina Faso et même au Cameroun.
Oui. Hein. On peut citer également le cas des sociétés telles que la CEMRI au Cameroun, la société de production de riz. Je peux citer aussi des sociétés comme les sociétés de la pâte à papier. Ce sont des sociétés qui étaient complètement étatiques. Mais à l'arrivée, certaines de ces sociétés ont été privatisées. Et la plupart ont même dégringolé, ont relativement disparu. Il y a aussi l'assaut des cotons, les sociétés de transformation, de production du coton, qui sont en voie de privatisation dans la plupart des pays d'Afrique.
Alors tout cela, ça a fait une dette, parce que le FMI avançait des fonds, mais évidemment, il fallait rembourser. La dette est énorme pour certains pays. Mmh. Et donc... tout cela a grévé beaucoup l'avancement de tous ces pays. Et à cela s'est ajoutée aussi une crise politique.
Oui, il y a eu la crise politique. Mais avant la crise politique, il y a eu aussi dans les pays d'Afrique subsaharienne francophone, il y a eu la question de la dévaluation. Au début des années 90, le franc CFA était brutalement dévalué. À l'époque, il y avait une équivalence de... Il y a un taux fixe de un rapport 1 franc égale 50 francs CFA. Et on est passé à un taux complètement différent, une parité complètement différente, 1 franc CFA égale 100 francs CFA. Et cette dévaluation brutale qui n'a pas été du tout préparée par les hommes politiques africains a été complètement néfaste pour... l'Afrique. Et ça a contribué en l'absence d'une politique vraiment de relance, ça a plutôt entraîné la chute de l'économie et ensuite la baisse des salaires.
C'est le bilan, en fait. Mm-hmm, alors, nous allons parler tout à l'heure de la suite. Mm-hmm. Vous avez apporté une musique pour nos auditeurs. Mm-hmm. C'est de quoi s'agit-il ?
Voilà, il y a un morceau de Brenda Fassie, qui est une chanteuse sud-africaine. Voilà, qui, après l'apartheid, a été l'une des chanteuses phares de ce pays. Brenda Fassie.
Yeah.
alors une grande chanteuse qui revendique dans ses chants ou qui simplement chante la beauté de la vie?
Elle chante la beauté de la vie, mais elle chante surtout l'espoir. Là, on est dans la période post-apartheid. Les Sud-Africains sont confiants. Ils se disent qu'enfin, ils vont avoir une société libre et ils vont pouvoir définir leur... Leurs droits.
Et donc, il y a peut-être un peu de déception actuellement, mais alors justement, après tout ce bilan que vous venez de faire, le colloque a pour objet aussi de traiter de l'avenir.
L'avenir avant tout, parce qu'on ne va pas s'apesantir sur le passé. C'est vrai que le passé est important, ça permet quand même de comprendre d'où on vient. Et maintenant, ce qui compte pour nous, dans le cadre de ce colloque, c'est de voir les perspectives. Quelles sont les perspectives qu'on peut tracer à la lumière de tout ce qui s'est passé, tant sur le plan économique, sur le plan politique, que sur le plan social et culturel.
Oui, la grande place des femmes aussi.
La grande place des femmes dans ce contexte-là. Et concernant l'aspect économique, on essaie de mettre l'accent sur les projets d'avenir, comment définir, quel projet définir pour l'avenir, quelle va être la place du paysan dans les projets qui sont mis en œuvre, parce que la plupart du temps, on a constaté que le paysan était relativement exclu des projets même qui le concernaient.
Voilà. Et oui. Malgré toutes les organisations paysannes qui existent.
C'est ça. Et le concept de développement local qui essaie qui œuvre aux synergies entre les dispositifs d'appui, les organisations socioprofessionnelles, les entreprises, est au cœur des problématiques d'avenir. Comment, dans le cadre d'une action collective, différentes entités, différents acteurs d'un espace précis peuvent entrevoir leur avenir? Et il appartient de plus en plus aujourd'hui à ces collectivités de définir elles-mêmes leurs projets.
Oui,
et de les conduire surtout.
Et puis aussi, il y a toute la question justement de l'inter-régionalisme.
Il y a également la question de l'intégration régionale. Sur le plan économique. On se rend compte que l'espace national n'est plus un espace pertinent aujourd'hui pour traiter des questions de l'Afrique. Entreprendre des politiques régionales intégrées est tout à fait stratégique. C'est quoi l'intégration régionale? Ça consiste à définir un espace d'échange partagé entre un groupe de pays qui sont proches, qui peuvent échanger et librement et surtout laisser libre cours à la circulation des hommes et des biens. Et à partir de là, ils peuvent également mettre en commun des politiques de gouvernance régionale sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan culturel. Ce sont les grands axes de l'avenir qui sont relativement incontournables au niveau de l'Afrique aujourd'hui.
Donc, beaucoup de choses, évidemment, qui seront en débat. Et la présence d'universitaires de renom très important sur le plan, justement, des études africaines, puisque vous aurez comme parrain de ce... et présent, bien sûr, à ce colloque, deux éminents professeurs, Roland Pourtier, professeur émérite de géographie à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et Catherine Kokuri-Vidrovitch, qui est professeure émérite d'histoire contemporaine de l'Afrique à l'Université Paris 7.
Tout à fait.
Alors, chacun d'entre eux a beaucoup travaillé sur l'Afrique, a publié et...
Tout à fait.
Et vient justement aider toute la réflexion à
Tout
ce
à
colloque.
En particulier Roland Pourtier qui, ces jours, a coordonné un ouvrage collectif sur les 50 ans d'Afrique. Le comité a estimé qu'il était vraiment intéressant de l'inviter et nous sommes vraiment flattés de voir qu'il pourra participer à ce colloque. Le bilan qui est fait dans cet ouvrage montre qu'il n'y a pas lieu vraiment de se décourager, qu'il n'y a pas lieu de croire que l'État
pourrait faire quelque chose,
mais qu'il y a des dynamiques endogènes au niveau de la société qui sont fortes et qui peuvent permettre à l'Afrique d'entrevoir son avenir.
Voilà, une autre Afrique que celle qu'on présente toujours, luttant contre la famine, avec des guerres, plus ou moins tribales, parce qu'on ne comprend rien, évidemment, à ce qui se passe. Alors là,
il y a aussi Catherine Kokiri-Vidrovitch.
Le point de vue de l'historienne.
Voilà, qui nous permet de baliser, qui a une vision vraiment de cette période qui vient de s'écouler. Parce qu'il ne faut pas oublier que les 50 années ont été marquées par la fin de la guerre froide. Déjà, et l'émergence des démocraties au niveau de l'Afrique, et ensuite pas mal de conflits qui ont été menés dans les pays. Et la vie de l'historienne est tout à fait importante pour nous
prendre la mesure de tout ce qui se passe.
De ce que se passe, et même si par ailleurs il faut entrevoir des perspectives par rapport à notre devenir.
Alors, ce colloque est ouvert à tous.
Tout à fait.
Hein, bien que le niveau universitaire soit important.
Il n'y a pas de barrière.
Il n'y a pas de barrière. Voilà. Tout le monde est appelé à venir et à débattre.
Tous ceux qui peuvent participer à ce colloque et vraiment l'écouter et puis donner leur avis, surtout.
Voilà. Et alors, pour ceux qui ne pourraient pas venir le vendredi, il y a une synthèse qui est prévue le samedi matin.
Le samedi matin, tout à fait. Qui sera faite par pour le professeur Pourtier, voilà, et Madame Catherine Vidrovitch.
Oui, donc pour ceux qui ne seraient empêchés, mais qu'ils viennent le vendredi parce qu'ils pourront s'inscrire à des ateliers. Alors on conseille bien sûr de renvoyer le bulletin d'inscription, c'est mieux. Mm-hmm. C'est entièrement gratuit. Et donc, vous avez à l'envoyer à la Maison des Tiers-Mondes et de la Solidarité Internationale à www.mtmsi.asso.free.fr. Alors, maintenant, vous avez aussi appelé à mener une autre musique. De quoi s'agit-il ?
Il s'agit de Richard Bonnat, qui est un musicien de la world music et qui est basé aux États-Unis et qui, au niveau de la diaspora africaine, représente valablement le continent. Richard Bonnat.
To be free, they always have the greatest personalities. You like having them around when you're feeling down and incomplete. Knowing the right things to say at the right time, and if they don't know the answers, they will find them. You become attracted to their wisdom, virtue, and state of mind. Understand it's up to you to finally face the truth and check out all the signs. You're empty when alone, lost when friends are gone, and you can't stay on your mind. You just need to know that.
Good times.
Oh, Lord.
Good times. We do that.
Voilà, je rappelle que je suis avec Paul Boncondé. Et que nous parlons du colloque qui va se passer vendredi 21 mai et samedi 22 mai à l'espace Martin Luther King, boulevard Louis Blanc. 50 ans d'indépendance, quel bilan et quel devenir pour les pays d'Afrique subsaharienne francophone. Alors, je dis simplement à tous ceux qui sont intéressés que le samedi 22 mai, de 10h à 13h, cette table ronde finale, qui donnera la synthèse des travaux et qui sera faite par Roland Pourtier, le professeur dont nous venons de parler, géographe éminent, sera suivi de témoignages d'initiatives et d'échanges animés par Gabriel Biban-Kouba et René Bilas sur le microcrédit, la lutte des femmes au Congo-Brazzaville, l'agriculture paysanne au Burkina, les entrepreneuriats avec Bertin Naoum, président fondateur de MedTechSaaS, et Guim Kombo, entrepreneur et écrivain. Il sera question aussi de la diaspora et des initiatives locales avec Thierry Simporé, président de l'association des Burkinabés de Lyon, et puis de la mise en place de centres chorégraphiques en Afrique par Salia, qui est chorégraphe de la troupe Bambouka. Bien sûr, il y a un atelier culture, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Et pour cet atelier, un cinéaste et un écrivain seront présents pour l'animer. Il y aura également, le vendredi, un espace d'animation qui se passera donc de 13h à 16h avec un repas africain. Des animations comme le jeu d'Awele, la projection du film Référence Sambéné de Yacouba Traoré, la diffusion d'archives sonores par Archives du Monde et des expositions, ainsi que la visite du Centre de documentation Tiers-Monde qui a préparé pour ce colloque une bibliographie des ouvrages importants sur le thème. Alors, qu'ajouteriez-vous, Paul, pour donner envie à nos auditeurs de participer?
Alors, je leur dirais déjà de venir découvrir cette maison Tiers-Monde, hein, qui est aussi un espace commun déjà, mais qu'ils sachent également que l'Afrique a besoin maintenant de regarder son avenir, d'aborder vraiment de tous les problèmes de son temps, à savoir les problèmes liés à les problèmes politiques, déjà les problèmes démocratiques, les problèmes d'intégration, comment vivre ensemble au sein des continents, au sein de ce continent, les problèmes liés à la mondialisation, comment articuler tout ça, État-nation, mondialisation, comment articuler les régions et puis le monde actuel, la mondialisation. Et les questions de la femme. La femme est une composante essentielle de la société africaine. Elles sont au cœur même des activités, des initiatives locales en Afrique.
Plusieurs participent à l'animation des ateliers.
Tout à fait. Il est important de venir voir ce qui se passe et comment on entrevoit l'avenir. Et ensuite, nous pensons qu'à travers ce colloque, nous aimerions pouvoir vraiment définir non seulement les pistes de nouveaux projets de développement, mais également les pistes des relations qualitatives nord-sud qui sont tout à fait indispensables parce que les 50 dernières années ont été complètement néfastes.
Eh bien, merci Paul Bonkondé.
Merci.
Je rappelle que nous sommes donc le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage et qu'en ce moment même se déroule une marche pour rappeler tout ce qui s'est passé, la marche du souvenir.
Tout à
fait. Et que ce soir, à la salle Peloutier à Antigone, vous pourrez retrouver justement une soirée d'Afrique avec de l'artisanat, des saveurs d'Afrique et une soirée gospel. Vous pouvez vous informer au 06 62 41 69 39. C'est le collectif du 10 mai qui a préparé tout cela. Alors, bien sûr, un programme très riche en ce moment, puisque nous sommes en pleine quinzaine du commerce équitable, que cette quinzaine a aussi choisi de parler des droits des peuples amérindiens, et nous retrouvons le problème des indépendances d'ailleurs, on va le voir. Hélas, pour le temps affreux qu'il a fait samedi dernier, le marché équitable n'a pas pu avoir lieu, mais il aura lieu samedi 17, à la place Paul Bec à Antigone de 11h à 18h. Mardi qui vient, c'est la soirée projection à l'espace Martin Luther King, donc 27 boulevard Louis Blanc, vers un commerce équitable local et la projection du film « Les défis du guarana », une plante qui est à la fois énergisante et qui également fait maigrir. Donc, son succès est sûr. Mais
comment vous l'appelez cette plante ?
Le guarana.
Le guarana.
Voilà. Mm-hmm. Mais justement, le commerce équitable a fabriqué du guaranito que vous pourrez goûter, une boisson très agréable et rafraîchissante. Et puis mercredi 19 mai, il y a le grand concours artistique avec exposition des œuvres et remise des prix avec buvette, et ce sera précédé le mardi 18 mai d'un café actualité qui parlera justement de « Pour un monde solidaire dès l'école primaire » avec trois associations, le Centre documentation Tiers-Monde, la FIBALA, Artisans du Monde et Terre Nourricière. Ça fait même quatre associations qui montreront comment on conscientise en fait les enfants sur cette question-là et tous les jeunes du lycée jusqu'à l'université. Donc je rappelle que cette quinzaine du commerce équitable se déroule jusqu'au 23 mai et qu'elle a pour thème les droits des peuples amérindiens, mais que nous avons aussi en ce moment une quinzaine justement des peuples d'Amérique latine, c'est le collectif ALBA qui l'organise, et que ce soir à 20h, en avant-première, vous pouvez aller voir au Rabelais le film débat Estomago et récolter justement le calendrier de toutes les activités, car il y a beaucoup de films, des débats très importants et surtout une fiesta dont il faut retenir la date puisque c'est le samedi 15 et comme à l'habitude, il y aura un programme à la fois de danse, de cuisine, à déguster, toutes choses qui seront, et ça se termine, par un concert bal. Donc, ne pas oublier cette fiesta latino-américaine dont on vous reparlera d'ailleurs sur Divergence. À bientôt, chers auditeurs. Et merci à Paul Pondé.
Merci.